Eh bien bonjour Geneviève Moreau.
Bonjour.
Vous êtes maire de Chouranches. Chouranches, un village dans lequel nous nous rendons aujourd'hui et qui fait part, on peut peser nos mots, d'une situation plutôt alarmiste. Un phénomène aussi qui est plutôt nouveau, cette pierrale du Buis qui est actuellement assez bien vivace, vous donne beaucoup de fil à retordre et vous avez pris un petit peu les choses en main et vous êtes vraiment concerné par la question. On peut rappeler un petit peu l'origine. Est-ce que déjà l'année dernière, dans un premier temps, ça avait commencé un peu à amorcer quelques inquiétudes ?
Alors oui, déjà, la pierrale était déjà l'année dernière. La seule différence, c'est que probablement, elle a attaqué les buis de l'intérieur. Donc, on n'a pas vu les dégâts à l'extérieur. Mais cette année, le phénomène a été amplifié. Et notamment, il y a une vraie prise de conscience collective dans la mesure où ces papillons qu'on voit collés aux fenêtres donnent, pour certains, une angoisse face à la masse de papillons, mais également à la destruction potentielle qu'ils génèrent.
Alors Chouranches, qui est, comme vous le disiez, aussi bien concerné par les buis, c'est vraiment le cœur du village. En fait, on s'aperçoit qu'il y en a partout.
Alors le buis, c'est l'ADN de Chouranches, c'est notre patrimoine. Donc lorsqu'on a ce type de patrimoine, on ne veut pas le voir partir. C'est pour ça qu'on se mobilise. Les buis, pour nous, ça remplace nos clôtures. C'est ce que nos ancêtres ont planté pour séparer les parcelles. Le buis, c'est ce qui empêche les rochers ou les cailloux de rouler. Le buis, c'est ce qui marque également nos chemins remarquables. Souvent des buis doublement centenaires, on veut les préserver. On ne veut pas voir partir ça.
Voilà, c'est vraiment un problème structurel de village. Alors, vous vous êtes donc emparé de la question, on peut dire, de bonheur, hein, relativement peut-être par rapport à d'autres secteurs. Alors, comment avez-vous appréhendé la chose ? Vous aviez déjà un peu une notion de la dangerosité de cet insecte ?
Rien du tout, rien du tout. C'est les habitants qui sont venus me voir en me confiant leurs craintes et qui se sont mobilisés d'abord avec des bassines et puis du savon pour les piéger. Et quand j'ai vu l'ampleur de l'action, moi je suis très fière de dire que je traverse le village en enjambant des bassines, des néons et que chacun regarde le résultat de son piège. Donc à partir de là, quand il y a une mobilisation citoyenne participative, je crois qu'on ne peut qu'accompagner. En tout cas, on doit accompagner.
Il y a une véritable dynamique collective qui est née de manière spontanée, ça ?
Ah, tout à fait. Je montais tout à l'heure au village en voiture et je me suis aperçue qu'il y avait d'énormes bassines sous un réverbère au Chartreux, dans ce qu'on appelle Chouranches-les-Bains. Hier soir, j'allais de maison en maison, je voyais des lumières un petit peu de partout. Et là même, dans la phase de traitement, hier, pour le lancement du traitement, il y avait plus d'une douzaine d'habitants qui étaient présents pour poser des questions et voir ce que ça pouvait donner.
Alors ce qui est étonnant, c'est quand on arrive au village, bien on voit malgré toute cette masse de papillons, quand même des buis qui restent verts dans la majorité, on peut dire. Alors un problème qui a été anticipé de manière très louable par les habitants. Vous évoquiez des bacs d'eau de vaisselle. Alors ça, c'est des parades qui sont nées assez tôt.
Les bassines avec le savon, en vrai dire, pour être tout à fait honnête, il faut rendre à César ce qui est à César. On en a entendu parler à Pont-en-Royans, où une habitante piégeait beaucoup. La seule différence, c'est que chez nous, ça s'est transformé en une action collective. C'est via les réseaux sociaux, via Facebook, via le site de la mairie. Chacun a expliqué son expérience. Et du coup, tout le monde s'y est mis. Alors, il y a différentes méthodes. Il y a les bassines avec l'eau, une marque de savon dont on ne parlera pas, mais un monsieur qui est chauve hein, quand même. Et ça marche très très fort, ils adorent. Mais d'autres habitants se sont posés la question, et si on aspirait avec un aspirateur industriel, et si on protégeait avec un répulsif, et si on mettait ces espèces de pièges électriques avec des néons. Donc il y a eu tout un tas de questionnements autour de ce piégeage. Bon, il se trouve que c'est vrai que la bassine et le savon, c'est ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, je crois que c'est lundi matin, deux habitants à eux deux ont collecté 50 kilos de papillons mouillés. Bien sûr, ils étaient mouillés hein, lorsqu'ils les ont sortis, mais ils ont égoutté 25 kilos chacun sur deux habitants.
Avec tout ce qu'il y a, ça pourrait être insignifiant, mais ceci dit, quand même, quand on regarde le nombre, le potentiel de papillon par papillon, c'est quand même déjà une chose.
Alors, je ne suis pas ingénieur agronome, mais je me suis documentée sur Internet. Chaque papillon pond entre 200 et 800 œufs. Ce qui veut dire que lorsqu'on en élimine, obligatoirement, on modifie le nombre d'œufs potentiels qui pourront sortir. Donc, c'est une bonne action. Alors là, je me suis beaucoup rapprochée des services de l'INRA. notamment l'ingénieur agronome en charge de ce dossier, qui tout au long de nos discussions m'a précisé certaines choses, avec une patience énorme, m'a formé en matière de biologie animale. Mmh. Et à chaque fois que l'on lançait une action, je revenais vers lui en lui demandant si c'était probant. Et il m'a bien confirmé que ce que l'on fait est probant. Mmh.
Alors vous, en tant qu'élu, vous avez aussi pris les devants, déjà peut-être sur le territoire, pour donner un certain signal d'alarme auprès peut-être du parc ou d'autres collectivités. Et puis également, vous évoquez l'INRA, c'est aussi une interface pour vous privilégier, pour plus connaître un petit peu tout cet aspect biologique et aussi scientifique.
Donc effectivement, quand ça tombe dessus et que les habitants viennent vous voir et vous posent des questions, on est extrêmement démunis. Tous les maires n'ont pas toutes les compétences nécessaires. Pour ma part, je suis juriste, donc je suis très très loin de ce domaine-là. Et de ce fait, je me suis retournée vers mes collègues maires aux alentours en posant des questions. Comment avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment vous envisagez les choses? Et là, je me suis aperçue qu'ils ne savaient pas. Pas mieux que moi. Je me suis retournée vers la communauté de communes, où là, ils ne savaient pas non plus. Vers l'ONF, j'ai eu une oreille attentive pour un des correspondants, c'est vrai. Et surtout, moi, je me suis retournée vers le parc. Enfin, j'ai demandé au délégué de Chouranche d'interroger le parc. Et on a interrogé le parc. Le parc a dit qu'il allait prendre le problème. Bon, sans doute que le parc n'est peut-être pas en capacité de le faire aujourd'hui. Compte tenu du contexte, pourtant, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Alors moi, j'attends du parc, vraiment, une prise en compte de cette question, parce que pour moi, c'est vraiment un dossier qui est transversal sur le Royan, Royan-Drôme, Royan-Isère, mais qui est globalement présent partout. Aujourd'hui, cette pyrale, elle monte en altitude. Des villages qui aujourd'hui n'étaient pas concernés le seront sans doute demain. Parce qu'il faut être clair, quand elle n'aura plus rien à manger en bas, elle montera, elle s'adaptera.
Chouranche est référencée comme une zone sensible d'un point de vue environnemental.
Alors nous avons des zones classées Natura 2000, donc là j'attendais également de la direction des territoires un appui sur ces zones. Or il faut savoir qu'on m'a précisé que le buis n'est pas, alors je cite tous les mots, hein, le buis n'est pas un habitat protégé d'intérêt communautaire. C'est-à-dire qu'en gros, le buis n'est pas classé comme une espèce qui permet à d'autres espèces de se protéger, de s'installer de manière pérenne. Donc rien n'est fait. Ceci étant, Chouranche, c'est aussi 60% de son territoire qui est arboré et à majorité des buis. Et les buis sont au milieu de tous les autres arbres. Donc on est obligé de se poser des questions. Je vous ai amené tout à l'heure le long d'un chemin remarquable qui pour nous est aussi du patrimoine et on voit que ces buis sont complètement mangés. Plus de feuilles vertes nulle part. Oui, il y a un préjudice esthétique, mais il y a aussi ce préjudice patrimonial et ce risque pour l'environnement. Et je ne parle pas du risque d'incendie qui pourrait se propager en cas de feu. Donc, au-delà de toutes ces considérations, pour nous, tout ce qu'on peut faire, ça ira dans le bon sens. Nous ne sommes pas au pays des bisounours, nous ne protégerons pas la montagne dans son intégralité. Mais on va protéger le cœur de village et ce que l'on appelle les buis remarquables ou les chemins remarquables. C'est peut-être une goutte d'eau, vous avez raison. Mais on a envie de la tenter.
Vous êtes donc bien intéressé à la question des traitements et vous avez trouvé des pistes?
Alors, il y a en gros trois traitements, hormis le piégeage en amont. Voilà. Donc, il y a le traitement chimique. Et là, ça ne se posait même pas comme question. Nous l'avons complètement écarté. Restaient des traitements de type biologique. Donc, le premier traitement, c'est à base d'une bactérie, d'un bacille. C'est le traitement que nous avons choisi parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui donne le plus de résultats. Je me suis rapprochée de Anne Buffet, qui est directrice du domaine de Visil, qui traite ses buis de cette manière-là. Alors, bien sûr, domaine de Visil, on est dans un parc qui est confiné. Pour autant, elle a fait ses trois traitements, elle s'en est sortie avec ses buis. Il y a un autre traitement, d'autres traitements à base d'éléments naturels, comme du purin de fougère, purin d'ortie. Or, manifestement, ces traitements sont aujourd'hui aléatoires, n'ont pas complètement confirmé leur réussite. Nous n'avons pas le temps. Donc, on va à l'essentiel. Nous commençons le traitement avec le bacille.
Alors, vous avez aussi une connexion privilégiée avec M. Martin, dont vous parliez, qui est aussi un acteur assez précieux dans cette affaire. Vous référez souvent à lui ?
Ah, tout à fait. Alors, il est d'une patience fantastique, donc je l'appelle souvent en lui posant des questions diverses et variées. Je lui ai expliqué ce que nous faisions à Chorange. J'ai été très étonnée de la mobilisation générale, très étonnée de notre système de bassine avec l'eau savonneuse. J'ai envoyé beaucoup de photos. Il m'a dit qu'il montait un dossier pour faire aussi faire part à sa hiérarchie. Et effectivement, sitôt que j'ai une question, je reviens vers lui. J'ai en projet de monter une réunion. Alors, je ne sais pas quelle forme aura cette réunion. En tout cas, lui, il est partie prenante pour venir. Il m'a plusieurs fois dit qu'il viendrait sur le terrain, en tout cas, qu'il voulait voir ce qui se passait et voir un petit peu ce que l'on avait mis en place et le résultat. Ça peut être aussi l'occasion que tous les habitants puissent poser les questions qui les préoccupent.
Alors là aussi, on est dans un cycle météo qui n'est pas véritablement favorable à ce que cela enraye bien le papillon, puis de prochaines pontes. Quelles sont les perspectives actuellement?
Alors moi, je suis résolument optimiste. Allez, pas optimiste, mais disons que je suis déterminée. Alors effectivement, la météo jusqu'à présent n'était pas favorable, puisqu'au contraire, la chaleur décuple la vitalité des papillons et des chenilles. Le cycle va beaucoup plus vite. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il y aura un nouveau cycle. Là, nous sommes au troisième cycle. Il y en aura un quatrième, probablement sur fin octobre, début novembre. Donc, il va falloir tenir jusque-là. Et au printemps, se poser la question de l'apparition des chenilles avec les chrysalides. Donc, voilà, il est évident, comme disent nos anciens, que si on avait un hiver très rigoureux, peut-être que moins de chenilles passeraient cet hiver. Pour autant, on est quand même dans un domaine où on ne sait pas grand-chose et on constate plus que tirer des leçons vraiment probantes et scientifiques.
Alors, en ce qui concerne le public, le privé, au sein de Chorange, est-ce que ça marche dans le même sens?
Alors, la préoccupation, elle est complètement partagée. Moi, j'ai été ravie de voir le site des grottes et son directeur, Laurent Garnier, être un des premiers à réagir en nous disant que si nous traitions, lui traitait. Et qu'effectivement, on partagerait cette prestation. Qu'est-ce qui s'est produit? Enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et depuis hier? C'est que la commune a commandé deux prestations. Une prestation par le biais d'un camion pulvérisateur avec un canon. Nous allons prendre à notre charge un certain nombre d'heures de ce camion, de même que nous allons prendre à notre charge un certain nombre d'heures de traitement à dos, toujours par un prestataire avec un pulvérisateur puissant. Mais nous avons ouvert la possibilité à tous les propriétaires de pouvoir se raccrocher à cette prestation que nous avons négociée. On l'a négocié sur le coût humain, nous l'avons négocié sur le coût du produit. Tout le monde a joué le jeu. Et à partir de là, nous prenons en charge les frais de déplacement. Les propriétaires se greffent sur cette prestation. Ce matin, le camion ira au site des grottes, ira sur certains sites privés et la facture se fera directement au privé et au site des grottes. Mais pour autant, la prestation d'ensemble et un schéma d'ensemble a été vu.
C'est la globalité, puis ensuite vous répartissez. C'est beaucoup plus pratique que de prendre les choses par fragments.
Mais on n'y arrivera pas par fragments. De même que j'espère que cette prise de conscience très forte à Chorange va permettre à d'autres communes de se mobiliser. Sur les réseaux sociaux, nous sommes en contact avec des personnes de Lyon, des personnes de la Drôme, des personnes de Carpentras, des personnes du Causse, des personnes de Savoie, qui nous posent des questions sur ce que l'on fait. J'ai même lu ce matin une commune qui dit « Ok, votre expérience nous intéresse, nous allons voir ce que l'on peut faire à notre niveau. » Et je trouve fantastique de donner cette impulsion. Moi-même, j'ai écrit à mes différents collègues maires, les 12 maires du canton de la CCB, pour les informer de ce que nous faisions, leur envoyer la lettre que nous avons mis dans les boîtes aux lettres. Et aujourd'hui, je m'apprête à leur envoyer un message en leur expliquant ce que nous avons fait, avec qui et le résultat que nous attendons. Après, je pense que cette prise de conscience, elle doit déplacer notre simple limite de territoire. On est sur un territoire beaucoup plus grand.
Merci beaucoup, Geneviève Moreau.
Merci à vous. On est ravis que la presse relaye notre combat parce qu'encore une fois, le plus d'informations que vous pourrez donner, je pense qu'on en manque cruellement, tant les élus que les habitants. Donc, plus on en parle, plus on sait que cette prise de conscience collective, elle peut intervenir et on peut arriver à faire quelque chose.